Des oreilles avec des trous dedans.
Oui. Des dédés avec des trous dedans aussi.
Oui.
Des fusils molles pour fouler tout.
Oui.
Vous écoutez Radio Libertaire.
C'est exact.
Et dans un joyeux bordel, nous allons commencer cette émission 283, dans laquelle nous avons un dédé, un nouvellement invité, enfin exceptionnellement invité pour une émission qui ne s'appelle pas dédé, mais Fabrizio Rat, dont nous avons parlé déjà. Alors en fait, bonsoir. Les auditeurs te connaissent peut-être déjà.
Ouais. Bonsoir.
Bonsoir.
Déjà, la question qu'on pose à tous nos invités, c'est comment ça se prononce en fait ton nom de famille ?
À l'italienne, c'est-à-dire on prononce très fort les consonantes, donc ouais. Fabrizio Rat.
Rat.
Oui.
Voilà.
Pour rouler un peu le R. Voilà, parce que la dernière, il y a 3 semaines, on avait Antonin Tri Wang et on savait pas non plus comment prononcer. Mais lui non plus ne savait pas, donc ça allait très bien. Alors, je vais essayer de te présenter un peu aux éditeurs, Fabrizio, mais très succinctement, parce qu'au fond, je ne te connais pas très bien. Mais ce que je sais, c'est que j'avais... Bon, on s'était déjà croisé brièvement avant, mais surtout, j'avais été à un concert de ton groupe, Jukebox, à l'Ermitage, et ça m'avait beaucoup plu, et donc j'en avais ramené un morceau dans cette émission, et ça vous avait beaucoup plu aussi à André Gaillochet et André de La Sayette.
Tout à fait, Jean-Claude. Ça nous avait beaucoup plu.
Voilà, et donc c'est pas la peine que j'en parle en fait de ce groupe, puisqu'on l'a déjà entendu dans cette émission, et qu'on va l'entendre un peu, mais peut-être tu peux présenter, on va écouter quelque chose.
On peut écouter peut-être la notre version de Locomotion de Jukebox.
Ouais.
Alors le principe de Jukebox de ton groupe, c'est que ce sont pas des compositions originales, c'est un principe de reprise, mais sous une forme un peu spéciale, c'est ça?
Oui, voilà, c'est un peu l'idée du groupe, c'est un peu c'est un jukebox en fait, mais un jukebox qui marche pas. Et donc, il y a des problèmes de lecture, des problèmes techniques en continuation. Et donc, c'est très difficile à gérer parce que chaque chanson est dérangée par un processus, par un truc qui l'amène dans des territoires comme ça sonores un peu bizarres.
Ouais.
Et le jeu, c'est un peu d'arriver à reproduire des effets électroniques, mais qu'avec des moyens acoustiques, donc qu'avec les instruments traditionnels, ouais. Mais qui sont joués avec des techniques de préparation de trucs très bizarres. Et voilà, c'est un peu le principe. Et donc les chansons sont filtrées, sont amenées dans... sont beaucoup dérangées par des problèmes techniques.
Ouais. Et ça peut aller du problème de son, effectivement, de filtrage, comme tu dis, ou au problème de rayure, de mise en boucle.
Oui.
Toutes sortes d'accidents.
Oui, c'est un peu chaque morceau a un peu une idée de filtrage différente. Donc,
Mais il y a une chose avant qu'on écoute quand même, c'est que je voudrais que tu nous dises comment tu choisis les morceaux. Et aussi que nous présente celui qu'on va écouter, c'est-à-dire pourquoi tu as choisi de réarranger ce tel ou tel morceau. Ouais.
En fait, c'est une question d'amour.
Ouais.
C'est très. C'est vraiment. Moi, je suis très romantique. Et donc, il faut que j'aime vraiment une chanson avant qu'on la joue. Et aussi que les autres musiciens l'aiment beaucoup et qu'on puisse. Je sais pas, c'est assez clair en fait. Chaque fois qu'on prend un morceau, c'est assez clair si ça va marcher ou pas. Parce que on voit tout de suite le potentiel d'un morceau inter. Et aussi, il faut que ce soit un morceau où on peut prendre beaucoup de distance. qui n'a pas du tout de sans aucune qui n'est pas gêné par aucun problème de je sais pas de respect ou de
ouais.
Il faut, même si c'est des choses qu'on aime beaucoup, il faut vraiment les traiter comme.
Donc tu cherches pas forcément à choisir des morceaux que le public connaît ou des choses comme ça, c'est pas forcément ça ton choix. C'est le but, c'est pas de réarranger absolument des tubes, c'est d'arranger des chansons que tu aimes, quoi.
Quand même. Non, c'est quand même, il y a le truc de mémoire qui est assez important, je pense.
Ouais,
ouais. C'est-à-dire le point où les gens reconnaissent la chanson qui est vraiment beaucoup transformée.
Ouais.
Et ça, c'est une chose très intéressante aussi, de jouer un peu avec ça, jouer avec le rapport.
Avec la mémoire du public aussi.
Ouais, ouais. Oui, oui. Et en plus, je pense que dans les vrais tubes, dans les tubes qui sont effectivement devenus des tubes, il y a souvent quelque chose de très particulier, quelque chose de spécial. Et donc, tout d'un coup, ça donne beaucoup de possibilités au niveau d'arrangement. Il y a un grand potentiel, même si c'est des choses très, très simples. Ça pourrait presque être banal, mais.
Oui, tu penses que ce sont pas devenus des tubes par hasard ou par le jeu uniquement du marketing. Il y a toujours quelque chose musicalement un potentiel, comme tu dis, quelque chose qui une pas, riche.
Ça dépend, en fait, mais ouais. En tout cas dans les tubes qui ont choisi, je pense qu'il y a un potentiel.
Alors, ce qui va être marrant quand même, c'est que je pense que c'est dommage que l'autre Dédé ne soit pas encore et pas encore repris son micro, bien qu'il nous regarde au fond de la pièce, là, d'être caché derrière. Comment elle s'appelle cette plante ?
C'est Jennifer.
Jennifer, cachée derrière Jennifer.
Elle a des feuilles très larges. Un Dédé peut se cacher derrière. Il y a les oreilles qui dépassent, mais.
Et oui, donc le truc, c'est que. Nous, je pense qu'il n'y en a aucun d'entre nous trois qui soit vraiment très calé en termes de tube, quoi. C'est-à-dire qu'on connaît peut-être pas mal de trucs, mais en fait, on est peut-être relativement ignare en termes de tubes musicaux.
Ouais,
alors,
c'est
ça
vrai.
Va être chouette voir ce qu'on va écouter, si on reconnaît.
Comment,
ou si on connaît
comment tu transformes des tubes qu'on ne connaît pas?
Alors, je peux quand même présenter les musiciens du groupe.
Ah ouais, bien sûr.
Ah bah oui, oui.
Donc c'est Ronan Courtier à contrebasse et Julien Lutelier à la batterie, Fidèle Fournillon au trombone et Louis Laurent à la trompette. Ce sont tous deux musiciens qui, pour moi, assez extraordinaires, qui ont une façon de jouer avec leur instrument très particulière. Et c'est un peu, c'est complètement dans l'idée du projet, dans le... Ouais.
Bon, bah, je pense que là, les auditeurs ont l'eau à la bouche. Hein. C'est le temps de leur faire jeter quelque chose un peu dans les oreilles. C'est parti, locomotion. We'll be right back. Alors donc c'était Locomotion par ton groupe Jukebox.
Et l'original était
de Little Eva. C'est une chanteuse. D'ailleurs, il a une histoire assez rigolote pour cette chanson parce qu'en fait, cette chanteuse, elle travaillait comme femme de ménage chez un compositeur de chansons américain. Là, je me souviens plutôt du nom, mais c'est quelqu'un d'assez connu.
Ouais.
Et en fait, quand elle faisait le ménage, elle faisait une danse très particulière, une façon de faire le ménage très dansant, on va dire.
Non.
Et donc, lui, il a été inspiré par ça. Et il lui a écrit une chanson, et l'a chantée, et c'était une grosse tube. Ça faisait un super tube des années 60.
Ah oui.
Ah, oui.
Ouais. Alors, c'était un extrait d'un concert, là, ce qu'on vient d'entendre.
Oui, ça c'était. En fait, c'était notre tout premier concert.
Ah
ouais? Ouais. C'est. Parce que c'était en occasion d'une carte blanche, là, c'était la musique. Et voilà, c'était notre premier concert.
C'était à la Cité de la Musique?
Oui, dans l'amphithéâtre.
Dans l'amphithéâtre.
Oui.
Une carte blanche que tu avais eue, toi, tu avais présenté plusieurs projets ou...
Je vais présenter deux projets, ça et l'autre groupe. Donc peut-être on va parler.
Sinon, je voulais te demander, parce qu'il y a un aspect assez curieux dans ton parcours quand même. C'est qu'on entend bien que tous ces sons, ces préparations, cette façon de... Ces techniques un peu... Ces modes de jeu, est-ce que ça vient de l'univers de la musique contemporaine? Parce que t'as composé beaucoup de musique dite contemporaine, et d'après ce que j'ai cru comprendre, t'as un peu rompu avec cette conception ou ce milieu ou...
Oui.
Ouais.
On va dire. En fait, j'ai un parcours assez. Fait de plusieurs choses parce qu'en fait, j'ai commencé avec le piano, la musique classique, et après, à 17 ans, moi, je travaillais dans des studios, je faisais de la production de techno avec. Des arrangements de ça. Je travaillais pendant un moment là-bas. J'ai même fait une petite tube en Italie. Une chanson qui a pas mal marché. Après, j'ai pas mal composé. J'étudiais beaucoup la composition contemporaine. J'ai pas mal joué du jazz. Et après, oui, c'est vrai, je me suis concentré beaucoup sur la musique contemporaine. Et j'ai beaucoup écrit pour des ensembles. C'est pas que j'ai rompu, c'est-à-dire je pense que c'était d'écrire comme ça pour des ensembles, d'écrire juste la musique sur le papier et de tout décider, c'était pas vraiment, je pense, ma façon d'approcher la musique là. Parce que je sais pas, je sentais toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, non? Dans la réalisation des idées, en fait. J'arrivais jamais vraiment à réaliser mon idéal qui était caché un peu derrière l'écriture. C'était aussi pour des questions pratiques, parce que quand on écrit pour des ensembles, tu vois, il y a quatre répètes et après c'est fini. On oublie un peu aussi tout le côté humain et que ça se construit avec le temps, avec les musiciens, avec les gens. C'est un rapport de confiance, c'est un rapport de... On construit avec vraiment l'énergie de chaque personne. Et je trouve très difficile de faire ça avec juste un ensemble qu'on voit...
Trois fois.
Oui, trois fois.
Mais ça, je trouve ça vachement intéressant, cette réflexion. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça demande un engagement et un investissement gigantesque que de faire des études de composition et d'arriver finalement à être joué par des ensembles. Et comment est-ce que tu peux avoir donné, j'imagine, avoir donné énormément d'énergie et d'engagement pour arriver à ça, et en même temps en être très rapidement déçu pour le quitter. Enfin, tu vois, c'est ce que je veux dire.
Bah oui, mais en fait, je pense qu'il n'y a aucun rapport entre l'effort qu'on fait pour... c'est un peu une réflexion sur la technique, non? C'est vrai qu'on étudie beaucoup pour écrire, pour composer la musique, comme ça. Mais ça, ça n'a aucune garantie, je pense, sur la réussite et sur la valeur artistique de la musique.
Ouais.
C'est-à-dire, pour moi, les idées n'ont aucun prix. Il y a des idées qui sont super et qui arrivent comme ça, même pas deux secondes. Et ça se réalise tout de suite et c'est super. Et il y en a d'autres sur lesquels on travaille pendant des mois et peut-être le résultat il est pas bien. Donc je sais pas. C'est assez aléatoire, je pense. C'est assez lié au hasard, en fait.
Ouais, ouais.
Je pense.
Et alors, tu continues à mener les deux de front ou tu as un peu abandonné
non,
le.
C'est-à-dire, en fait, maintenant, je me concentre surtout avec mes groupes.
Ouais.
Et avec des nouveaux projets, mais qui sont surtout avec. Je travaille pas mal avec le Cabaret Contemporain en ce moment.
Ouais.
Et c'est une association, un ensemble de musiciens et il y a pas mal de musiciens qui viennent de l'improvisation et qui sont à peu près les mêmes gens là du groupe avec lequel je travaille. Et donc là c'est différent parce qu'on construit vraiment dans la continuité, donc on fait peut-être des projets différents, mais on commence vraiment à se connaître bien, à connaître les possibilités de chacun et donc ça se construit dans le temps.
Ça forme un vrai groupe, quoi.
Oui, oui,
un collectif.
Mais ceci, je te suis complètement sur cette réflexion-là. Je pense que la musique, ça se cuit pendant des heures et ça dépend. Un vrai groupe et l'énergie de plusieurs personnes qui se connaissent et qui savent jouer ensemble.
Ouais, oui.
C'est irremplaçable, mais.
Et aussi pour Jukebox, en fait, c'est vrai, l'idée elle est partie de moi, c'est moi qui ai formé le groupe, mais là en fait c'est un vrai groupe, c'est chacun qui propose, c'est chacun qui donne son. C'est pas du tout un. Et c'est assez magique parce que chaque fois il y a de changements, chaque fois on trouve des choses, et pour moi c'est par rapport à avant, quand je composais comme ça dans ma chambre. Et j'essaie de tout établir, c'est très différent. Là, c'est beaucoup plus ludique, ça va très rapide et on arrive à des résultats qui moi, je trouve beaucoup mieux de ce que je faisais avant. Voilà.
Tu nous fais peut-être écouter, je ne sais pas si c'est ce que tu avais prévu, mais un des tubes dans une version originale aimes particulièrement.
Oui. Linda Scott, I've Told Every Star.
Alors qui est cette Linda Scott?
Linda Scott, c'est une chanteuse qui a fait ce tube-là dans les années 60 et
aux États-Unis
aux États-Unis, oui. Elle a fait beaucoup de chansons et pendant je pense 4-5 ans, elle a fait pas mal de tubes. Celui-là, c'était sa chanson la plus connue.
D'accord.
Et la plupart de ses chansons parlent des étoiles. Et je ne sais pas si c'est parce que la première chanson parlait des étoiles, alors elle a essayé aussi.
Ah, et comme ça marchait bien, elle s'est dit.
Comme ça marchait bien, elle s'est dit peut-être. Si les autres ont parlé des étoiles. Ouais. Et après, elle a tout arrêté et elle a commencé à étudier la théologie.
Ah,
et voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Mais...
Pas l'astronomie.
Rapport,
pas l'astronomie.
Pas l'astronomie
hein.
Non, elle est passée
théologie.
Tout de suite au niveau au-dessus.
Supérieur.
Enfin, si on peut dire, parce que moi, je ne suis pas.
Mais c'est quand même. Je trouve quand même intéressant sa fascination pour les étoiles et après
et
la
puis
théologie.
La théologie, ouais. Allez, on écoute ça.
Why haven't I told you? Da-da, da-da.
Et donc, tu nous proposais d'écouter tout de suite...
Oui, le thème de ça, filtré par la jukebox. C'est juste ça, un extrait.
Juste le thème, ouais. D'accord.
Filtré par la jukebox.
C'est super, c'est super là parce que c'est vachement parlant quoi. Parce oui. que si on connaît, moi je suis absolument confus et marri de ne pas connaître Linda Scott, mais oui. là du coup en écoutant les deux, voilà, c'est super.
Oui, c'est ça, on sent bien comme tu dis que c'est bien parce que c'est pas dans la dérision comme tu disais, c'est parce que c'est des chansons que t'aimes quoi.
Ah oui, oui, oui.
Ouais. Et même si vous voulez déglinguer un peu, c'est quand même la chanson, quoi.
Oui.
Parce que ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, je trouve. Pas beaucoup, mais souvent dans le jazz contemporain ou dans les musiques un peu dites étranges ou pas forcément classiques, c'est l'aspect un peu dérision, un peu moqueur, voire. Alors justement, c'est intéressant de ce que disait Dédé sur cette. Voilà, une autre façon de jouer des standards que de les moquer, quoi.
Oui.
Oui. Pas trop dans le respect, comme tu disais, mais pas non plus dans la moquerie, en
oui,
tout cas.
Oui, c'est plutôt dans l'ironie, en fait. C'est l'ironie, mais avec... ouais.
mais,
avec quand même de l'amour
avec
derrière.
Avec de l'amour, oui. Bon, voilà, l'amour. C'est ça. Voilà. Oui, c'est ça.
Je voulais... te faire écouter un petit truc, enfin pour qu'on te fasse un peu réagir. Et en plus, je vais en profiter pour parler d'une autre chose que tu fais. Je t'ai vu il y a une semaine, enfin deux semaines, je sais plus, enfin récemment à la Dynamo, jouer en solo des thèmes de Monk au piano préparé. Et je vais te faire écouter un tube de. Bon, cette fois-ci, toujours dans l'univers du jazz,
ouais.
par un autre pianiste qui s'est consacré beaucoup au piano préparé, que tu connais peut-être, et dont je te dirai le nom, tout à l'heure. Alors attends, je vérifie parce que... Ouais, c'est bon, je l'envoie. Thank you. Voilà, donc vous aurez reconnu le thème de Charles Mingus, Goodbye Pork Pie Hat, et c'est interprété par, joué au piano préparé par un pianiste qui s'appelle Albert van Veenendaal.
Je ne connais pas, non. Non,
moi, je ne connaissais pas non plus jusqu'à il y a très récemment. Hey. Et c'est un musicien hollandais qui a une soixantaine d'années et qui a fait beaucoup de piano préparé. Et pas seulement, il a aussi des ensembles. Enfin, il a fait plein de choses, mais il est connu qu'en Hollande, en fait. Mm-hmm. Et ça m'a beaucoup plu.
Ouais, c'est super. Ouais.
C'est marrant parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a écouté... le piano préparé de Maurizio Kagel, de Rrr. Et puis, il n'y a pas longtemps non plus, on a écouté Benoît Delbecq jouer le piano préparé. Donc, on a un peu branché sur le piano préparé ces derniers temps. Mais, et le mystère, un peu, c'est. Et ce que je trouve magique, c'est. Ça sonne évidemment à chaque fois différent en fonction de la personne qui le prépare. Mmh. Et comment on prépare un piano? Alors ça, ce serait trop long. Si on se met à parler de ça, on va bouffer toute l'émission.
Ouais,
mais
c'est ça,
c'est super. Ça.
Oui.
Toi qui fais beaucoup de piano préparé, quand t'entends un autre pianiste, tu comprends les préparations? Est-ce que entre pianistes préparés, on sait il a mis ça
Ah non, non, non.
Non, c'est là, chacun a sa cuisine, hyper personnel.
Bah, là, je me demandais justement qu'est-ce que.
Ouais, parce que c'est beau, je trouve. C'est très bien préparé.
Oui.
Parce que c'est pas toujours beau, hein, le piano. Il suffit pas de mettre des trucs dans le piano pour que ça soit intéressant.
Ouais. Oui, c'est un langage. Un peu, et surtout, je pensais beaucoup les rôles de chaque son. En fait, c'est pas juste de trouver des sons qui sont intéressants, mais c'est de quel rôle à chaque son dans la musique. Parce que sinon... Sinon, ça devient un peu... Je sais pas, moi par exemple, c'est assez limité comme façon de. J'utilise que 4-5 sons. Et c'est assez. Beaucoup de fois, le piano préparé, c'est dans la diversité. Donc, c'est-à-dire obtenir beaucoup de sons différents. Parce qu'on peut mettre un truc différent sur chaque corde. Un peu comme Cage, c'est un peu ça. C'est un peu beaucoup de sons très très différents.
Ouais.
Moi, c'est un peu l'inverse, c'est des sons très homogènes. Je cherche des sons du piano très homogènes. Mais chacun sa manière, quoi.
Tu veux nous faire écouter quelque chose de particulier ou est-ce que tu continues dans les versions originales de Tube, ou est-ce que tu as quelque chose par rapport au piano préparé
J'ai pas amené de.
Je me souviens d'un truc qui m'avait fait beaucoup rire, c'était
c'était
Bernard Luba qui jetait des balles de ping-pong dans le piano quand il improvisait. Ça, c'était super chouette. C'était super marrant, quoi. C'est vraiment les trucs qui repartaient. C'était totalement aléatoire, mais
c'était excellent. Et puis il y a aussi, ça n'a rien à voir, c'est pas préparé vraiment, mais j'ai pensé t'amener, mais je l'avais déjà passé dans une émission, le bidule en ut de Pierre Schaeffer dans le genre tube. Tu connais pas
Je connais pas.
Pierre Schaeffer, en 49 ou par là, il avait fait le bidule en ut. C'était un prélude de Bach, le prélude en ut majeur. Je sais pas, il avait, avec des bandes, des filtres, des coupures, et tout. Enfin, il en a fait un truc très, très, très drôle.
Ah oui.
Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous fais écouter?
Par exemple, ce tube des années 80, Main dans la main.
Ah, oui.
C'est un tube de Élie et Jacques, non?
Ah oui.
Je ne sais pas si vous connaissez
qui ça?
Le groupe
Élie et Jacques, non? Oui, ça me dit quelque chose.
C'était un groupe, c'était les Stinky Toys, ça va? Groupe, c'était en fait le premier groupe de punk français. Et après ils sont restés eux deux, ils étaient dans le groupe déjà, et après ils ont fait ce duo électropop, et Jacques Noe, c'est pour moi c'est un super musicien, c'est quelqu'un qui a commencé à faire qui a un peu inventé le pop français pendant ces années-là. C'était un des premiers à faire le synthé. à utiliser des synthés tout pourris avec une façon ouais. très, avec beaucoup d'ironie, beaucoup de...
Il a fait des choses. J'ai vu une vidéo. Alors, un Jacques copain nous a amené, nous a envoyé une vidéo.
Ouais.
Ah oui, il y a toute une histoire là. Est-ce que ce type a joué avec Ellie Medeiros?
Oui, oui, c'est elle. C'est oui, Ellie Medeiros. Oui.
Ah oui, c'est ça.
Oui, oui c'est oui. Ellie et Jacques Noe, c'est oui, Ellie Medeiros.
Ah, ouais. mais bien sûr, ah, Ellie oui. et Jacques Noe, bien ah, sûr, ouais. Ellie Medeiros. Oui, je suis con.
Mais Jacques
Parce Noe. Que quand on avait passé le morceau de Jukebox, enfin, quand j'avais amené ce morceau de Jukebox dans l'émission, j'avais raconté que j'avais été voir le concert et qu'il y avait Ellie Medeiros. Et moi, j'avais un peu oublié Ellie Medeiros, et puis c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais j'avais rien dit de spécialement mal, je crois. Mais enfin, on a un ami qui m'a reproché d'avoir été un peu condescendant ou je sais pas vis-à-vis d'Ellie Medeiros. Il m'a dit mais vraiment Ellie Medeiros, mais c'est génial. Ah, mais et c'est... il m'a envoyé une vidéo sur YouTube où on voit effectivement Jacques Noe avec un look extraordinaire.
Extraordinaire, oui.
Et Ellie Medeiros, très jeune, qui se dandine.
Ça y est, je me souviens.
Dans un truc de pop très minimaliste, très...
Oui, parce que ce que je trouve super dans les tubes, dans les chansons qu'il a fait, Jacques Noe, c'est qu'il y a toujours très peu de notes, c'est-à-dire c'est toujours 3 notes, 4 notes. Et il y a un truc, derrière, je sais pas, une force derrière ça que je trouve assez frappant.
Bon, bah on l'écoute alors, ouais. Main dans la main.
Oui.
Les gens se moquent, personne n'est jeune. C'est évident.
Bon, bah, c'est quand même un grand moment parce que là, finalement, ah, oui. on écoute un truc. Enfin voilà, en plus, ça, on rejoint le désir d'un autre auditeur, un ami oui. qui nous a demandé. Voilà.
On a un petit message donc pour François Tarot, on peut dire, qui est un chanteur pop aussi, et qui nous a envoyé un petit mail sous le nom de signé Le Lobby Pop.
Ouais.
Voilà, donc et c'était précisément donc la vidéo
chanson.
De cette chanson qui m'avait envoyé pour me démontrer que Elie Medeiros c'était très très bien parce que peut-être j'avais dit quelque chose qui laissait entendre que c'était pas ma tasse de thé. Et donc j'ai regardé la vidéo et effectivement tu viens de me dire Fabrizio que cette vidéo ça t'a marqué en fait la façon dont elle danse, elle se dandine d'un pied sur l'autre.
Mais tout là,
et Jacques Naud.
La façon de Jacques Naud de jouer les sons, tout ça, j'adore tout ça. Je suis un obsédé de ce groupe. J'ai tous les disques, j'ai tout. J'adore ça.
Et toi, André, moi, je le dis franchement, hein, c'est pas un truc. Alors, c'est peut-être aussi, on en parlait en antenne. Moi, je disais, en fait, j'avais. Je vais lâcher le morceau, mais j'avais. Je devais avoir. C'est quelle année, ça, en fait, tu dis
80.
80, ouais, donc j'avais 12 ans, voilà, c'est dit. Et ça me rappelle pas, c'est tout ce que j'aimais pas, quoi, enfin... oui, mais peut-être je le vivais différemment, ou c'est juste pas mes goûts, quoi, mais voilà, c'est super. Et enfin, c'est super que tu l'amènes, parce que moi, j'aime beaucoup Jukebox, donc, et donc c'est quelque chose que tu t'as envie de reprendre avec Jukebox,
avec Jukebox on fait une chanson de Jacques Naud qui Rectangle qui c'était son tube le plus connu et après aussi comme on a joué avec Elie Medeiros c'était là concert,
elle a chanté avec vous
plusieurs des chansons à elle
récentes ou anciennes
on a fait trois chansons de cette époque là et une elle est plus récente parce qu'elle a fait un disque en 2006
qui est bien
super.
Tu nous fais écouter quelque chose ou c'est André Gaillochet qui...
Fais-nous écouter quelque chose. Moi, j'ai une chose dans ma besace, mais on ne suis pas sûr que ce soit opportun. On va voir, on verra.
Peut-être une chanson... ça, c'est une chanson à moi, par contre. Et c'est inspiré pas mal de chansons des années 60, d'Elvis. C'est un peu à l'effet sur ça, mais ça c'est avec un autre groupe qui s'appelle Luna Maze. C'est mon groupe un peu plus de pop. L'idée du groupe, c'est là aussi d'utiliser que des instruments acoustiques pour arriver à des sonorités électroniques. Et là, dans cette chanson, on voit bien cette approche. C'est toujours avec Ronan Curti, la contrebasse, Julien Lutelier, la batterie, et avec une super chanteuse suédoise qui s'appelle Linda Ola. Et le morceau, ça s'appelle Paradise.
Bah, c'est vachement bien.
Ah oui.
Ouais, ça me plaît vachement.
Oui.
Ouais, c'est super.
Ouais. Et donc ça, tu disais, c'est une chanson de toi.
Oui, c'est une chanson de moi. J'ai pris un peu comme modèle, voilà, des chansons, d'Elvis ou.
Ouais, ouais, ouais.
C'est un peu dans cet esprit-là, on va dire.
Mmh. Ouais. Oui, oui, oui. Puis c'est vraiment, c'est super dans le. Oui, oui.
Et c'est que des sons. Bon, il y a juste un truc électronique, un petit peu de pitch shift sur le solo de piano.
Ouais.
Si vous avez entendu quand il descend comme ça. Mais tout le reste, c'est acoustique. C'est fait avec des instruments.
Puis enfin,
je joue un peu de guitare aussi.
On entend la guitare.
Ouais, mais ouais, j'ai ma technique. En fait, je sais pas jouer de la guitare, mais je sais juste faire deux, trois sons très bizarres.
Il y a quelques glissandos, non des trucs de.
Oui,
de slide. Enfin, slide de, ouais, oui. Ouais,
ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu.
Ouais, ouais, magnifique. Et c'est un groupe avec lequel tu. C'est récent, tournes beaucoup avec ce groupe ou.
Pas encore, en fait. C'est tout récent. On n'a pas encore. Là, on a. Parce qu'on a enregistré un disque. Après, moi, je fais la production. Je suis en train encore de. J'ai pas encore fini. Parce qu'on voudrait sortir un disque avec ça.
Oui, excuse-moi, je te coupe. En fait. Pardon, je mange des cacahuètes et du coup, ça fait un son affreux, mais les auditeurs ont l'habitude.
Ouais.
Quand même, le fait d'utiliser ces instruments acoustiques pour faire des sons comme ça suppose de très bien maîtriser la prise de son ou l'amplification. C'est-à-dire que pour des disques, il faut quand même arriver aussi à... Pour le mixage, ça, on utilise quand même des artifices de compression ou qui modifient beaucoup le son. Et pour le live aussi, ça doit. Moi, j'ai pas vu Jukebox en live, mais j'aimerais bien.
Ouais.
Ça doit aussi être un. J'imagine vous travaillez avec un ingé son que vous connaissez.
Oui.
Parce que
quand
c'est
il
pas
y a
évident.
La possibilité, oui. Après, il y a pas toujours.
Ouais.
Mais oui. De toute façon, c'est le. Oui,
c'est un aspect du truc.
Là, oui, c'est très important. Ouais.
Bah, parce que dans Jukebox, effectivement, il y a le tromboniste et le trompettiste jouent énormément, comme on a entendu sur le morceau Locomotion que tu as amené au début. Sur le souffle, ça, il faut que ça soit très... Enfin, en concert, souvent, c'est les rythmiques qui sont faites avec le souffle. Donc, c'est très amplifié et c'est vrai que c'est important que ça soit bien...
Oui, bien sûr. Oui, et aussi tout le... Oui, c'est assez... parce que c'est... en fait, oui, parfois ils nous disent, même l'ingénieur son, parce que comme on travaille beaucoup sur le mélange de sons, et donc parfois on a quelqu'un qui écoute, c'est-à-dire on s'échange beaucoup les rôles, non? Donc les soufflants, ils peuvent faire de la rythmique.
Oui.
La mélodie, ça peut être la batterie et donc ou la contrebasse et parfois on arrive quelqu'un qui écoute dehors du groupe, il n'arrive pas à savoir qui
à
fait
comprendre
quoi,
ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qu'il faut monter.
On s'échange la grosse caisse, le rôle de grosse caisse dans un morceau.
Oui, tu peux faire la grosse caisse au piano avec les graves du piano
et donc c'est assez c'est assez délicat de trouver un équilibre.
Oui, c'est intéressant ce paradoxe, parce que c'est une musique, comme tu disais, acoustique, qui imite l'électronique et qui a besoin de l'amplification et de l'électricité pour pouvoir vraiment vivre. On n'a plus beaucoup de temps.
Non, alors oui, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on écoute un bout du morceau que j'ai amené?
Oui.
Tu peux un peu peut-être faire un peu référence aux choses dont on parle.
Et après, on terminera,
on terminera
choix, soit un tube, soit un autre morceau de toi, comme tu voudras. Alors, donc, voici ça.
Thank you.
La chic à Laurent Dehors, donc j'ai bien deviné.
C'est exact. C'est un vieux disque de Laurent Dehors, qui date de 1997, qui s'appelle En attendant Marcel, avec Denis Charolles et comment il s'appelle, David Chevalier, je crois, hein, si je
me souviens
bien.
Oui, c'est ça. Disons que la clarinette contre basse, ça t'a pas donné des idées, Fabrizio, parce que c'est extraordinaire son entre électronique et acoustique.
Ah oui, c'est incroyable. Ouais, ouais.
En plus, c'est un type qui en joue particulièrement bien, Laurent Dehors, la clarinette.
Et puis voilà, puis c'est marrant parce que la réaction de Dédé était à peu près celle que j'aurais eue s'il avait ramené ce morceau. C'est tout de suite et dire ah mais voilà, c'est ça que j'écoute, j'aimais bien à cette époque-là quand c'est sorti, tu vois.
Ah,
ouais, c'est vrai que moi aussi j'étais, quand j'étais ado, j'adorais Police quoi. Et c'est presque eux qui m'ont donné envie de faire de la musique quoi. Enfin, ça a été vraiment. Donc voilà, c'est peut-être on écoutait, en tout cas, j'écoutais plus Police que Eli Medeiros à l'époque. C'est peut-être par snobisme, mais en tout cas.
Mais on est bien content que toi, t'aies écouté Eli Medeiros.
Bien sûr.
À notre place. Et que t'en aies fait, et que t'aies fait des trucs, des super musiques avec mais elle, ouais, d'ailleurs aussi. Alors en fait, on, oui, va terminer l'émission, donc t'as, oui, le choix.
Oui.
Qu'est-ce que tu voudrais nous faire écouter pour qu'on se quitte? Ah, bah, attends, pendant que tu réfléchis, oui, j'oublie de dire, ah, le 1er avril à Épernay, il y a un concert Épinay, il y a un concert de jukebox, donc le 1er avril à Épinay.
Dans le cadre du festival Banlieue Bleue, et ce sera en première partie d'un sorte de All-Star.
Oui.
Aldo Romano, oh, Texier,
ouais, Sclavis, ouais.
Sclavis, ouais. Et autres compagnies.
Ouais, oui.
Bah, super.
Voilà, donc ne manquez pas.
C'est
alors, Épinay, je sais pas. C'est, oui, ça doit pas être tout près, ouais.
C'est non, pas trop loin. Non plus.
93, ça, ouais, doit être vers Blanc-Mesnil, tout ça, un peu plus loin, peut-être.
Oh,
un peu...
Ah, faut absolument qu'on finisse. Faut qu'on envoie,
oui,
le morceau. Okay. Alors,
Sonic.
Ah, Sonic.
Oui, de Luna Maze.
Alors, bon, donc on va se quitter et donc on te remercie vraiment, Fabrizio. Bah,
merci, ouais, vous, merci beaucoup.
Non, merci à vous. C'est un plaisir.
Voilà. C'était une chouette émission. Et donc, à la semaine prochaine. Salut.
Salut.
Salut. I'm not afraid to die.
Sonic, go up, light up, fire, break up, power, sonic, go up, let's make power, fire, noisy, sonic.